Bienvenue à cette exploration des sources qu'on a reçues. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon via Africa Press, des articles des 7 et 8 juin 2025. On va parler de sécurité internationale, un cas à Moréen, puis des défis économiques en Centrafrique, mais aussi à l'échelle du continent.
Oui.
Et puis des enjeux de souveraineté, Madagascar, le Gabon, et on finira sur les droits humains, Togo et RDC, un programme assez dense.
Absolument, un éventail large. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces situations, parfois très locales, de Montréal à Kinshasa, elles peuvent refléter des dynamiques beaucoup plus globales.
C'est ça, l'objectif, c'est d'extraire l'essentiel et de voir un peu les liens, quoi.
Exactement.
Bon, alors commençons par Montréal. L'arrestation de Mohamed Abdullah Warsame, 51 ans, d'origine somalienne, citoyen canadien.
Oui.
Comment te vouloir tuer 1 million de personnes?
C'est énorme.
C'est énorme et très inquiétant. Il aurait aussi parlé de visions religieuses, d'épisodes de torture qu'il aurait subis.
Oui, ça a complexifié encore les choses.
Tout à fait. Et son parcours interpelle, hein. Il quitte la Somalie en 89, devient canadien, puis entraînement avec Al-Qaïda en Afghanistan en 2000.
Ah oui, quand même.
Condamnation aux États-Unis en 2009 pour soutien matériel à Al-Qaïda, puis il est expulsé vers le Canada en 2010.
D'accord. Donc son arrestation par l'ISN, l'équipe intégrée sur la sécurité nationale, et son évaluation psy à l'Institut Philippe Pinel, ça soulève la question très, très difficile du suivi des individus radicalisés.
Surtout avec cette potentielle composante psychiatrique.
Exactement. Quand les deux se mêlent, comment on gère ça? Bon, une première expertise dit qu'il est apte à subir son procès, mais le fond du dossier reste compliqué.
On reste dans le domaine justice et droit, mais on part au Togo. Le rappeur Amron Tchala. Essoué Narcisse, connu pour ses critiques du régime.
Oui, un artiste engagé.
Et il a été arrêté fin mai. Et là, son avocat nous dit qu'il est en hôpital psychiatrique. Et juste après ça, paf, une vidéo TikTok qui sort où Amron, l'air très calme, s'excuse auprès du président pour ses comportements outrageux. Ça interroge, non?
Ah oui, clairement. L'avocat, Maître Célestin Agbogan, il doute fortement de l'authenticité de ses excuses. Il parle de possibles contraintes.
De pression, hein?
Voilà, de pression et d'une arrestation qui n'aurait pas respecté la procédure. Pas de mandat, le procureur prévenu après coup.
D'accord.
Du coup, ça ravive les craintes sur une possible utilisation de l'internement psychiatrique pour faire taire les voix critiques au Togo.
C'était une accusation grave. Ça touche à la liberté d'expression, en particulier celle des artistes face au pouvoir.
C'est tout l'enjeu.
Bon, passons à l'économie. Un rapport d'Afreximbank qui vient de sortir révèle une concentration assez forte de la dette extérieure africaine.
Ah oui, c'est un point crucial.
50% de la dette détenue par seulement 6 pays. C'est beaucoup.
Oui, c'est un risque systémique majeur. Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Maroc, Mozambique, Soudan... Il porte la moitié du fardeau.
Il rapporte dit quoi d'autre alors?
Il dit que plus de 60% des pays africains ont un ratio dette sur PIB, donc le produit intérieur brut, supérieur à 50%. C'est élevé. Alors, il y a une légère amélioration attendue d'ici 2029, mais le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement, reste écrasant pour beaucoup.
C'est-à-dire?
25 pays dépassent le seuil critique de 20% des recettes publiques fixées par le FMI. C'est énorme. Donc, Afreximbank recommande quoi?
Mobiliser les ressources nationales.
L'argent interne, oui.
Et plaider pour une réforme de l'architecture financière mondiale. C'est un appel assez fort.
Et ça fait écho justement à la situation en Centrafrique. Le FMI vient de débloquer 58 millions de dollars. C'est une aide, mais avec des bémols. Le FMI parle de résultats mitigés du gouvernement sur les objectifs budgétaires.
Qu'est-ce qui coince principalement?
Le FMI met le doigt sur des faiblesses persistantes. La réforme du marché des carburants, par exemple, elle n'avance pas. Le marché est jugé opaque, coûteux.
Ah oui, depuis le monopole accordé à Neptune Oil.
Voilà, et apparemment, même un don de carburant russe n'a pas été très rentable. Et puis, il y a la fiscalité pétrolière, les taxes qui ne rentrent pas comme prévu.
D'accord.
Et un audit sur la structure des prix du carburant, que le FMI recommande fortement, et qui coûterait 120 000 dollars, il n'est toujours pas financé.
Donc le soutien du FMI reste conditionné à des réformes qui peinent à venir.
C'est ça, c'est un soutien sous conditions strictes.
Changeons de registre. Diplomatie, ressources. Madagascar rejoint le Mineral Security Partnership Forum. C'est une initiative lancée par les USA et l'UE.
Oui, le MSP Forum. L'objectif affiché, c'est de sécuriser l'accès aux minerais critiques, comme le cobalt, le nickel, graphite, terres rares.
Et officieusement, de contrer un peu l'influence chinoise dans ce secteur.
On peut lire comme ça, oui. Pour Madagascar, c'est vu comme une opportunité d'attirer des investissements, de valoriser son potentiel minier, qui est réel.
Mais la question de la souveraineté se pose, j'imagine.
Toujours, Comment trouver le bon équilibre? Comment négocier des partenariats qui soient vraiment équilibrés sans devenir juste un fournisseur de matières premières pour les puissances occidentales?
Changer une dépendance contre une autre, potentiellement.
Voilà le risque. Surtout que ça intervient alors qu'il y a des discussions en cours avec les USA sur des taxes douanières. Le timing est intéressant.
Et dans un autre geste d'affirmation de souveraineté, le Gabon. Le Gabon a mis fin unilatéralement à son accord de pêche de 2007 avec l'Union européenne.
Oui, une décision assez forte du gouvernement de transition. Il juge l'accord déséquilibré.
C'est-à-dire ?
Pas assez de retombées économiques locales.
C'est ça, des retombées jugées marginales et puis des craintes de surexploitation des ressources halieutiques.
Une volonté de reprendre le contrôle.
Clairement. Ça s'inscrit dans cette volonté de renforcer la souveraineté économique sur les ressources naturelles. L'UE s'est dite surprise, mais ouverte au dialogue pour une éventuelle renégociation.
À suivre, donc. Ça pourrait inspirer d'autres pays, hein. C'est possible. Ça pourrait donner des idées à d'autres pays africains qui se sentent lésés par ce type d'accord.
On termine avec une mobilisation d'un autre genre. 75 lauréats du prix Nobel, à l'initiative de Denis Mukwege.
Oui, le docteur Mukwege.
Ont lancé un appel dans le monde, un appel très fort pour une action internationale face à la tragédie humanitaire dans l'est de la RDC.
Oui, un cri d'alarme puissant. Il dénonce des décennies de violences armées, de violations graves des droits humains, d'impunité.
Et il pointe du doigt la passivité internationale.
Exactement. Il parle d'un deux poids deux mesures flagrant par rapport à d'autres conflits comme l'Ukraine. Les mots sont durs, hein. Ils évoquent une agression illégale du Rwanda en RDC.
C'est une accusation directe.
Très directe. Et il réclame une conférence internationale sur la paix pour enfin remettre ce conflit au centre de l'agenda mondial. Il y a une urgence absolue.
Pour résumer donc, on a vu des enjeux de sécurité très complexes à Montréal, mêlant radicalisation et peut-être santé mentale. Des accusations d'instrumentalisation de la psychiatrie contre des voix critiques au Togo.
Oui.
Des défis économiques énormes liés à la dette et à la gestion des ressources, que ce soit en Centrafrique ou plus largement sur le continent.
Tout à fait.
Des affirmations de souveraineté, parfois un peu risquées mais compréhensibles, à Madagascar et au Gabon.
Oui, une tendance nette.
Et enfin, ce cri des Nobel pour qu'on n'oublie pas l'interminable crise en RDC. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et ce qui ressort, au fond, c'est peut-être cette tension permanente pour beaucoup d'États. Comment on navigue entre les impératifs de sécurité, les ambitions économiques, ce désir légitime de souveraineté, et puis le respect des droits fondamentaux.
C'est souvent contradictoire.
Souvent, oui.
Ces aspirations ne sont pas toujours alignées, loin de là. Et la question qui reste, peut-être, c'est de savoir si un équilibre stable et juste est vraiment possible dans le contexte mondial actuel, avec tous ces équilibres qui changent. C'est une question qui reste ouverte.